Chapitre 14. Elsa éprouva quelques déceptions en voyant M. de Pinvalas lui témoigner une froideur un peu hautaine pendant les 48 heures qui précédaient son départ. Elle pensa « Il est fort, très fort, je ne l'aurai pas facilement. » Mais comme elle avait remarqué le trouble passager d'Alain, comme elle avait une très grande confiance dans son habileté en même temps que dans la puissance de sa beauté, Mademoiselle Hoffel conservait tout son espoir. « J'ai commencé d'entamer son indifférence, » écrivait-elle à Madame Mulbar. « C'est un résultat vraiment appréciable. Et maintenant, je veux poursuivre mon avantage. Je n'ai pas de plan fixé, mais faites-moi aller à Reims, et là-bas j'aviserai selon les circonstances. Je vous recommande tout particulièrement de vous arranger pour qu'il ne revoie pas Florita avant que notre mariage soit conclu, et pendant quelque temps après. Le plus prudent même serait de marier, aussitôt que possible, la petite, que je ne me soucierai pas de voir continuer avec Alain ses façons de petite sœur. Vous me trouverez peut-être exigeante, cousine Pépita. Je m'excuse de cette comédie que je vous oblige à jouer. Mais mon cousin Otto jugera sans doute que j'ai quelque droit à demander cela en retour des services que j'ai déjà rendus, en récompense anticipée de ceux bien plus considérables que je serai appelée à rendre en devenant marquise de Pinvalas. Car faciliter ce mariage et me donner les moyens d'exercer sans conteste mon influence sur Alain de Pinvalas, ce n'est pas seulement contribuer à mon bonheur, mais aider puissamment au triomphe de notre Germanie. Donc, éloignez Florita de son cousin, mariez-la tôt, à l'étranger si possible, pour qu'Alain plus tard n'ait pas l'occasion de la voir souvent. Monsieur de Ronchet est ici, réconcilié avec les Pinvalas. Vous vous souvenez sans doute de lui, cousine, car vous l'avez vu autrefois à Runesto. Il est toujours le même gros garçon blond, paresseux, poseur, un être insignifiant en somme, une patte molle. Si je n'avais aimé Alain, peut-être aurait-il pu faire mon affaire, car il est riche, il a de brillantes relations, particulièrement dans le monde diplomatique, et celui-là je l'aurais fait tourner comme un toton. Oui, si je voulais, ce serait facile. Déjà il est en admiration devant moi et me fait les plus chaleureux compliments. Cela me distrait, car Runesto n'est pas gai quand Alain n'y est plus. Le fiancé d'Armel vient de Vannes, chaque semaine, dans l'auto de ses amis. C'est un garçon intelligent, sérieux, pas bavard, malheureusement. J'essaie en vain de le faire parler sur les sujets qui m'intéressent. Rien à faire avec lui. Je le laisse donc maintenant à son Armel, qu'il contemple avec béatitude. Le mariage, pour des raisons de famille, ne se fera que cet hiver. Il faudra naturellement vous arranger pour que Florita ne puisse y assister, à cause de la présence d'Alain, et il serait même prudent de ne pas vous trouver à Paris à ce moment-là, car au passage, Monsieur de Pinvalas s'arrêterait certainement pour voir sa cousine. J'entends mon cousin Otto dire « Cette Elsa, elle pense à tout. » Oui, penser, prévoir, jusque dans les moindres détails, c'est le secret de la réussite. Pourtant, j'ai négligé quelque chose. Cette affection très vive de Monsieur de Pinvalas pour Florita, encore toute petite fille. Dès ce moment-là, j'aurais dû me méfier. Demandez à mon cousin Otto de la tenir éloignée. Mais j'oublie que je n'étais moi-même qu'une fillette. Il est vrai que je réfléchissais déjà presque autant qu'aujourd'hui et que la précocité de mon esprit devançait mon âge. Rien de nouveau ici. Elmer, la semaine dernière, m'a fait visiter l'installation. C'est admirable, le parti qu'on a pu tirer de cette mystérieuse retraite. Mais il cherche toujours vainement l'autre sortie sur Runesto. On prétend bien qu'elle fut murée, mais en réalité, personne n'en est certain. Et ils voudraient pourtant bien être assurés qu'un beau jour, d'intempestifs visiteurs ne leur tomberont pas sur le dos. Monsieur de Pinvalas, lui, doit le savoir. Quand je serai mariée, je m'arrangerai pour connaître ce secret. Mais il n'y a pas de temps à perdre pour arriver à mon but. Spitzwacher, que j'ai rencontré ce matin, m'a glissé au passage. Ça sera peut-être pour bientôt. Oui, il suffira d'une bonne occasion. Les Français, avec leurs divisions, leurs faiblesses, leurs fautes, nous en fourniront certainement plus d'une. À notre empereur de juger quand le moment sera venu. Un des amis d'Elmer, qui se trouve en ce moment à Kerhéven, part demain pour Biarritz. Il vous portera ma lettre, car telle qu'elle est, je ne voudrais pas la confier à la poste. Donc c'est compris, chère cousine Pépita, une situation d'institutrice à Reims, Florita bien tenue à l'écart, et le reste me regarde. Je signe cette fois votre Hilda Strauss. » Comme le disait Elsa, Maurice de Ronchet avait été vivement impressionné par la beauté de la jeune Suissesse. Il le laissa paraître dès le premier moment et chercha aussitôt les occasions de lui faire la cour. Tout d'abord, Elsa parut se dérober, mais en même temps elle s'arrangeait pour exciter par d'habiles et savantes petites manœuvres de coquetterie les sentiments du jeune homme. Quel but visait-elle en agissant ainsi? Elle l'avait dit à Pépita, faire de Maurice un instrument pour le plan d'espionnage qu'elle poursuivait. Amoureux d'elle, Monsieur de Ronchet lui servirait à obtenir des renseignements intéressants parmi les relations haut placées. Et telle était la déformation de cette conscience de femme qu'elle envisageait comme chose très légitime, très louable, la perspective de trahir son mari, du moment où il s'agirait de remplir ce rôle d'espionne dont elle se glorifiait. Ce rôle qui faisait d'elle un des rouages de la formidable machine secrète montée par l'Empire de Proie. Monsieur de Ronchet, nature faible et vaniteuse, ne devait pas peser plus qu'un fétu de paille devant cette volonté féminine qui prétendait en faire son jouet. Comme elle l'avait déjà entrepris quand il n'était qu'adolescent, Elsa le flattait particulièrement dans ses défauts. À l'en croire, il n'y avait pas de jeune homme plus parfait que lui. Et comme il avait bien fait de résister à Madame de Pinvalas, de ne pas se fatiguer au travail, à quoi cela aurait-il servi? N'était-il pas riche, pouvant se faire une vie agréable, sans se donner les tracas d'une situation plus ou moins dépendante? Comme par exemple, Monsieur de Pinvalas, si tenu dans son métier de militaire. Naturellement, tout ceci était dit loin des oreilles de la marquise et de sa petite-fille, près desquelles, d'ailleurs, Elsa déplorait que Monsieur de Ronchet n'eût aucune occupation sérieuse. Le jeune homme se rengorgeait sous les éloges et disait à Mademoiselle Hoffel « Comme vous savez comprendre les choses, quel esprit large, intelligent est le vôtre !» Il se faisait de plus en plus empressé, de plus en plus admirateur, et Elsa, peu à peu, semblait se laisser toucher, devenait plus accessible et plus coquette. Telle était l'adresse de la jeune fille dans les doubles jeux de tout genre, que la marquise ne soupçonnait pas le moins du monde ce flirt entre son petit-neveu et sa protégée. Elsa demeura à ses yeux une sorte de perfection, pieuse, obligeante, sérieuse entre tout et dévouée, charitable, ainsi qu'elle l'avait bien prouvé récemment, en donnant ses soins à une vieille servante du château. Un après-midi où les deux jeunes gens s'étaient rencontrés dans le parc, Mademoiselle Hoffel se montra un peu plus provocante que de coutume, et Monsieur de Ronchet, s'enhardissant, voulut mettre un baiser sur sa joue. Elle se recula tout à coup hautaine, la mine offensée. « Monsieur, que vous permettez-vous » il balbutia. « Elsa, je vous aime. Ce n'est pas une raison pour prendre de ces privautés. « Si, parce que je vous demande de devenir ma femme. » Elle feignit une stupéfaction profonde. « Vous voulez? Vous songeriez? Moi, l'enfant recueilli par la charité de votre grand-tante? Oui, vous, Elsa, vous qui dépassez de 100 coudées toutes les autres femmes. Vous êtes fou. Quand vous réfléchirez, vous changerez d'avis. D'ailleurs, jamais Madame de Pinvalas ne permettrait. Et qu'ai-je à faire de la permission de ma tante? Je suis majeur, libre de toute façon, et je vous aime, Elsa, je vous aime. » Il étendait de nouveau le bras pour l'attirer vers lui. Mais elle recula encore, la mine grave, émue. « Non, monsieur, non, oubliez-moi, c'est impossible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... » Elle parut hésiter, puis dit résolument. « Je veux être franche avec vous. Mon cœur n'est plus libre, et quoique sans espoir de voir mes sentiments partagés, je le garderai à celui auquel je l'ai secrètement donné. » Maurice s'écria violemment. « À qui? À qui? Je ne puis vous le dire, mais croyez que je resterai toujours infiniment reconnaissante de l'honneur que vous me faites. » Et pensivement elle ajouta, « Je crois que j'aurais été heureuse près de vous, car vous m'êtes très sympathique. Je connais vos grandes qualités. Voici maintenant que vous me prouvez de façon admirable votre désintéressement. » Maurice paraissait consterné. À dire vrai, cette idée d'offrir son nom à Elsa n'était encore chez lui qu'à l'état de projet vague l'instant d'auparavant. Mais maintenant qu'il l'avait mise à exécution, il s'y attachait de toute la force de cette passion que lui inspirait Mademoiselle Hoffel. Ardemment, il s'écria, en saisissant la main de la jeune fille, qu'elle n'essaya pas de lui retirer. « Vous réfléchirez, Elsa. Dites-moi que vous réfléchirez. Je ne puis renoncer à vous. » « Non, non, c'est impossible. Permettez que je vous revoie souvent, et peut-être alors peu à peu vous oublierez cet autre que vous aimez. Je ne voudrais pas vous donner un espoir qui pourrait ne pas se réaliser. Je vous le répète, mon cœur ne m'appartient plus. Quant à échangement éventuel, ce n'est pas une chose impossible, mais elle est du moins improbable. » Il lui serra fortement la main en murmurant d'un ton suppliant. « Elsa, je vous en prie, ne m'écartez pas sans miséricorde, je vous aime, je ne puis renoncer à vous. » Il tombait à genoux et baisait passionnément les doigts blancs et parfumés. Un éclair de triomphe passa dans les yeux d'Elsa. Elle le tenait, celui-là. Si seulement Alain de Pinvalas avait été aussi facile à conquérir. Elle dit avec douceur, « Relevez-vous, mon cher ami, songez donc si l'on vous voyait ainsi. Je suis désolée de vous faire souffrir, désolée. » Des larmes tremblaient dans sa voix et montaient à ses yeux. Mais en toute loyauté, je ne puis accepter cette recherche, puisque j'aime ailleurs. Monsieur de Ronchet l'interrompit avec vivacité. « Qu'importe ! Ce rival, je me fais fort de le vaincre, de vous en enlever le souvenir. Ah, qu'est-ce donc que celui-là, qui ne s'aperçoit pas de votre beauté, de votre charme incomparable ? Il ne mérite pas que vous lui conserviez votre amour, cet aveugle. » Elsa soupira. « Que voulez-vous ? On ne commande pas à son cœur. Pour le moment, je l'aime, voilà tout. » « Pour le moment, mais plus tard. Je ne puis préjuger de mes sentiments futurs. Ah, c'est un peu d'espoir que vous me laissez là, Elsa. » Elle sourit sans protester. Puis, comme le jeune homme se penchait vers elle, implorant, elle dit avec un coquet mouvement de tête, « Allons, je vous permets de m'embrasser pour prendre courage. Mais ce sera la seule fois, je vous en préviens. »